Clément Nobuna, bonjour.
Bonjour.
Vous avez adressé une note aux garants et facilitateurs de l'accord du 6 février 2019 pour manifester votre mécontentement suite à la confiscation des matériaux de construction d'une école et des menaces de mort proférées à votre encontre par le chef de MPC, à savoir Mamad Al-Khatim. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette note?
Je vous remercie beaucoup. Évidemment, j'ai envoyé des matériaux de construction d'une école dans ma circonscription à Kabo. Et lorsque ces matériaux sont arrivés, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la population m'a appelé pour me dire que Al-Khatim a mis main sur tous ces matériaux qui ont pris une direction inconnue. Je ne sais pas.
Quelle est la composition de ces matériaux?
Ces matériaux sont composés de 2 tonnes et demie de ciment, soit 50 sacs, 200 tonnes de 2 mètres en aluminium, 100 pièces de chevron et des fers à béton, ainsi que des planches pour la construction de ce bâtiment à usage de classe.
Quelle est la raison principale de la confiscation de ces matériaux?
Vous savez que M. Al-Khatim Mamad, c'est un chef de groupe armé qui n'est autre chose qu'un chef de groupe rebelle. C'est purement un acte de banditisme que ce monsieur a commis, parce que on ne peut pas comprendre pourquoi des matériaux de construction d'une école ou alors des matériels pédagogiques puissent être saisis par une personne, par un individu qui est censé être quand même un père de famille dont les enfants peuvent aller à l'école. Je ne comprends pas les mobiles. Mais d'après ce que j'ai appris de ce monsieur, il a dit que moi, avec mon parti politique et mon président de parti, le président Ziguele, que c'est nous qui attirons sur lui l'attention de la communauté internationale sur les exactions commises à Kabo. Mais nous jouons notre rôle. Si lui, Al-Khatim, estime que nous dénonçons certains actes, évidemment, nous représentons le peuple et que nous devons, c'est notre rôle de dénoncer tous les actes consistant à malmener nos populations que nous représentons à l'Assemblée. Mais lui, il ne voudrait pas qu'on parle de ce qui se passe à Kabo. Voilà les raisons pour lesquelles M. Al-Khatim pense que moi, j'attire sur lui ses attentions de la communauté internationale là et qu'il ne veut plus me voir à Kabo parce que je ne suis pas au bon parfum avec lui.
Dans votre note, vous craignez également pour votre vie car selon vous, il a proféré des menaces à votre rencontre. C'est vrai?
Bien sûr. Il a réuni les chefs de quartier, les chefs de groupe dans la soirée de 22 avril, le même jour où il a confisqué tous ces matériaux, il les a convoqués et il leur a dit officiellement et publiquement pour dire que désormais, votre député Nobuna Clément n'a plus sa place ici à Kabo. À qui veut entendre, entende. Donc, il a dit publiquement, devant chef de groupe, chef de quartier et certains notables qu'il a réunis dans la soirée du 22 avril 2020 pour leur dire que désormais, Nobuna Clément n'a plus sa place ici à Kabo. Du fait que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche et qui le dénonce à tout moment et qui ne veut plus le voir. Et aussi, il a dit non seulement que c'est Nobuna Clément qui ne doit parler à Kabo, mais qu'il ne verra pas le MLPC battre campagne dans la zone de juridiction où il se trouve. Et c'est très grave. C'est pourquoi j'interpelle l'opinion nationale et internationale sur ce comportement de M. Al-Khatim.
Mais vous attendez quoi concrètement de la part de la communauté internationale à travers les garants et les facilitateurs de l'accord du 6 février?
Nous sommes à une période très sensible et que les élections vont bientôt commencer. Les élections, c'est des actes de souveraineté d'un peuple et que chaque candidat, chaque individu qui se présente aux élections doit circuler librement dans la zone où il doit battre campagne pour se faire entendre, pour présenter son programme d'action. Mais si quelqu'un reste quelque part et qu'il dit qu'il ne veut plus voir quelqu'un dans une zone donnée, eh bien moi j'appelle l'opinion nationale et internationale sur ce comportement. Il faudrait que le gouvernement et les garants et facilitateurs de l'accord de Khartoum puissent prendre leurs responsabilités à ce niveau pour que les élections qui se pointent à l'horizon soient vraiment garanties en matière de sécurité.
Si vous aujourd'hui en tant que élu de la nation, vous êtes interdit d'aller dans votre zone de juridiction, mais qu'en est-il de la situation sécuritaire de la population de Kabo?
Mais vous savez que Kabo c'est une zone oubliée, ça je l'ai mentionné. C'est une zone totalement oubliée. Depuis que les rébellions ont démarré en République centrafricaine, c'est à partir de Kabo que les rébellions ont toujours commencé. Mais lorsque le pouvoir, ou alors ces rebelles qui ont démarré leur rébellion dans la zone, arrivés au pouvoir, je voudrais citer Bozizé qui avait commencé sa rébellion à Kabo, la Séléka avec sa branche. Ils ont commencé à Cabo, mais depuis lors, Cabo est complètement oublié, abandonné. Il n'y a ni force de sécurité, ni autorité de l'État dans cette zone. C'est pourquoi les gens qui se trouvent là-bas comme rebelles, ils agissent à leur volonté, ils se comportent comme sur un terrain conquis, et donc la population de Cabo est vraiment dans une souffrance atroce.
Votre région partage une frontière avec le Tchad voisin. Quelle est la relation qui existe aujourd'hui entre les deux pays frères?
Mais vous savez que les frontières sont fermées depuis un certain temps entre le Tchad et la RCA. Donc ça veut dire que nous n'avons pas vraiment une relation très claire avec le Tchad. Ça veut dire que notre frontière est fermée, il n'y a plus de relations, les gens sont confinés comme en période de coronavirus. Quand même bien, coronavirus n'existe pas bien avant, mais les gens sont confinés parce que on ne peut pas traverser au Tchad ni le Tchad vers chez nous. Mais seulement les rebelles circulent entre le Tchad et la République centrafricaine pour commettre des exactions. Aussi, il y a les éleveurs qui traversent à volonté pour détruire les champs, pour mettre les populations dans des problèmes sérieux.
Dans ces conditions, comment la population s'approvisionne en produits de première nécessité?
La population a des difficultés, naturellement, parce que pour arriver à Cabo, la route n'est pas aussi bonne. Mais les quelques rares commerçants qui font des efforts pour amener les produits de première nécessité à Cabo, vous comprenez tout de suite que les prix sont vraiment très hauts, si bien que la population mène une vie très précaire à ce niveau.
En cette période de lutte contre le Covid-19, est-ce que la population de Cabo est informée sur cette pandémie et quels sont les moyens de riposte mis en place sur place?
Mais puisque je ne suis pas arrivé là-bas, mais nous avons quand même l'équipe de Médecins Sans Frontières qui est à Cabo. C'est grâce à cette ONG qui fait qu'aujourd'hui la population de Cabo est informée de cette pandémie de coronavirus, et aussi la même ONG informe et puis donne aussi les moyens à la population pour pouvoir, n'est-ce pas, se préserver de cette pandémie-là.
Le traditionnel conflit entre éleveurs et agriculteurs existe toujours à Cabo à cette période de transhumance?
Mais l'éternel problème entre éleveurs et agriculteurs, ça ne finit pas, parce que comme je disais tantôt, il n'y a pas d'autorité de l'État, il n'y a pas de sécurité, il n'y a ni force de défense de sécurité. Donc, les conflits existent et existent bel et bien entre agriculteurs et éleveurs. C'est au quotidien que cela se passe.
Vous parlez des autorités locales. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la restauration de l'autorité de l'État. Quels sont les agents qui représentent l'État actuellement à Cabo?
Il y a à peine 2 ou 3 jours que le sous-préfet vient d'être installé. Mais il y a aussi les autorités communales qui sont là, mais qui ne sont que figuratives parce qu'ils n'ont pas de force. Puisque les hommes armés à Cabo ont la mainmise sur tout. Donc les autorités locales, notamment les autorités communales et le sous-préfet qui vient d'arriver, je ne sais pas quel rôle ils vont jouer pour protéger la population.
Les forces de sécurité ne sont pas à la frontière. Comment la population est sécurisée dans cet état de choses?
Mais cette question, il faut la poser au gouvernement, parce que nous avons toujours interpellé le gouvernement par rapport à cette situation. Parce que depuis toujours, pratiquement 5 ans aujourd'hui, 6 ans, voire 7 ans que l'autorité de l'État n'existe plus là-bas à Cabo, tout simplement parce que c'est une zone, comme je le disais un peu plus haut, c'est une zone totalement oubliée des pouvoirs centraux. Donc je lance un appel au gouvernement quand même pour cette fois-ci de penser à cette population, à cette contrée qui est même frontière avec le Tchad et que la circulation des éleveurs est au quotidien chaque jour.
Vous avez un message?
Mais un message, c'est un message d'encouragement à la population de Cabo. Je demande à la population de Cabo de ne pas céder à l'intimidation des groupes armés. Tôt ou tard, un jour, cette insécurité va prendre fin. Et donc, j'encourage la population de Cabo à garder son sang-froid et à ne pas céder à l'intimidation et à ne pas également céder aux provocations de ces hommes armés, notamment Al-Khatim qui en est le chef et qui n'interpelle pas ces éléments pour cesser de faire, n'est-ce pas, n'importe quoi sur la population.
Clément Nobona, merci.
Je vous remercie.